21h passées de quelques secondes sur Radion et le moment est venu de retrouver, comme chaque mercredi, votre émission littéraire. Voici donc Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une heure que nous allons partager avec un nouvel invité que je vous présente sans tarder. Didier Cornaille, bonsoir.
Bonsoir.
Didier Cornaille, vous êtes sur le devant de l'actualité éditoriale en Bourgogne et en France. Non, ça vous embête?
Non, comme chaque année,
il y a une actualité,
année, voilà, oui,
Didier
ça,
Cornaille.
Oui.
Alors, tout récemment sorti, tout frais, aux presses de la Cité, votre dernier roman qui a pour titre Thibaut Deschouka.
C'est le 27e, effectivement, sorti le 22 février, la date anniversaire de ma mère. Ça compte, ça.
Didier Cornaille, l'an dernier, nous avions eu Les Trois Chats de Chamassou, c'était au mois de mars 2017. Une histoire d'un retraité qui revenait prendre possession de la maison familiale.
Un ex-68.
Un ex-68-art. On pourra peut-être en parler un peu de 68
bah oui,
avec vous.
Oui, parce que j'en fus. Vu mon âge.
Alors Didier Cornaille, je dois rappeler que vous êtes ancré dans le Morvan depuis maintenant 40 ans.
Plus de 40 ans même, 43, 44 ans.
Car vous êtes un étranger
ans.
Du pays.
Eh oui, je suis un étranger.
Faudrait expliquer ce qu'est être un étranger du pays.
Je suis originaire du Nord. Mes parents étaient agriculteurs dans le Nord, dans la région de Cambrai. Et je reste très attaché au Nord, sans que je ressente une exclusion pour les autres, aucune. Pour les autres régions, je veux dire, aucune exclusion, bien sûr. Surtout pas pour le Morvan dans lequel je me sens. Si j'y suis encore au bout de 40 ans, c'est que je m'y sens bien. Et simplement, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Je m'y sens bien.
Une cinquantaine tout de même d'ouvrages.
Plus de 65. Alors, on doit être à 66, 67.
Vous êtes venu à l'écriture à travers la rédaction de guides de randonnée.
Non, même avant, je suis journaliste.
Alors,
de profession.
Bien sûr.
J'étais journaliste.
Agricole.
Oui, spécialisé dans la question rurale et agricole. Au Figaro d'abord, Figaro agricole d'ailleurs, pendant pas mal d'années, jusqu'à sa disparition malheureusement. Puis au niveau régional, après une interruption pendant laquelle je me suis occupé d'organiser des randonnées à cheval à travers le Morvan. Après, c'est devenu à travers toute la France. Puis je suis revenu au journalisme régional, au Progrès et beaucoup d'autres titres de la région, mais en étant correspondant en même temps de journaux nationaux tels que Le Matin jusqu'à sa disparition, puis Le Monde, dont j'ai été correspondant pendant des années.
En 1991, aux éditions de l'Armançon, vous faites paraître un roman. C'est peut-être même le premier roman.
C'est le premier, le tout premier.
Et alors, coup d'essai, coup de maître, ce roman a pour titre Le vol de la buse. On le trouve aujourd'hui, non pas aux éditions de l'Armançon, mais aux éditions en poche, aux éditions de Boré. Oui. C'est Le vol de la buse, avec déjà des préoccupations qui sont restées les vôtres jusqu'à aujourd'hui, Didier Cornaille.
Oui, un constat du monde rural, de l'évolution du monde rural, de ce qui peut s'y passer. Après tout, il y en a qui sont passionnés par ce qui se passe au quartier latin ou à la closerie des Lilas. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se passe dans les villages et dans la campagne, y compris avec les animaux d'ailleurs qui y vivent. Chacun ses points de vue. Hein.
Et ce roman, Le vol de la buse, a obtenu le prix Sully Olivier de Serres, donc en 1992.
Oui. En 92, c'était sa chance extraordinaire. Honnêtement, Gérard Gauthier, à qui on peut tirer un coup de chapeau, là, qui a fait un sacré boulot dans l'édition depuis des années, m'a demandé ce roman qui lui avait été indiqué par un ami commun. J'y croyais pas. J'étais persuadé que j'allais être très fier, j'allais avoir un bouquin dans mes étagères, un roman qui est de moi, hein, mais qui ne se diffuserait pas, j'y croyais pas. Et Gérard l'a fait concourir au prix Sully Olivier de Serres en 92, et c'est à lui que je le dois. Et le roman a décroché le prix Sully Olivier de Serres 92, ce qui a été un pied à l'étrier, si vous voulez, c'est indiscutablement. Au niveau des ventes, ça change rien du tout. Mais au niveau de la connaissance dans le monde de l'édition, des portes qui s'ouvrent, c'est colossal, bien sûr.
Et puis, il y a cette buse qui observe de haut les hommes, l'activité humaine.
Et celle-là, je sais qu'on me dit souvent, et c'est vrai qu'on la retrouve telle que ou sous d'autres formes, à travers les animaux que j'aime beaucoup mettre dans mes romans, c'est vrai. Mais la buse, elle reste là, elle est toujours là.
Alors, la buse en 91, en 2018, ce sont un peu les choucas, d'une certaine manière. Il y a les choucas.
Il y a eu les chats entre les deux.
Oui.
Et puis, c'est une présence animale dans mes romans assez forte. Bon, on a la campagne, après tout.
Et à Anneau, dans votre quotidien, les chevaux sont toujours là, Didier Cornaille?
Ah oui, bien sûr. Malheureusement, je ne monte plus à cheval pour des problèmes de dos, mais j'ai toujours un cheval. Ce matin, avant de partir, je suis allé m'occuper de mon cheval, bien sûr, et de mon chien.
Alors Thibaut Deschouka, donc c'est votre dernier roman, sorti en librairie le 22 février dernier aux éditions des Presses de la Cité. Alors on retrouve toujours un noyau de villageois, j'allais dire presque une assemblée de villages, des nostalgiques.
Oh, pas toujours des nostalgiques. Bon, des gens qui vivent, qui ont subi une évolution et qui ont toujours un œil, une mémoire en tous les cas de leur passé. Pour certains éveillent de la nostalgie, pour d'autres non, les choses changent, les choses évoluent.
Alors certains sont résignés. Certains sont résignés au déclin.
Sont résignés,
ou attendent la fin.
D'autres ne le sont pas, d'autres amènent des idées nouvelles. C'est un monde qui bouge, qui évolue, hein, qui est toujours en mouvement, comme les autres d'ailleurs, il n'y a rien de figé.
Alors c'est... Ces villageois de ce hameau des Ruées...
Ça, c'est dans les Ruées, c'est tout.
C'est dans Thibaut Deschouka.
Oui, hein. Dans Thibaut Deschouka.
Dans Thibaut Deschouka.
Pas dans les autres.
Pas dans les autres. Mais dans l'auberge qui vivote plutôt mal que bien, tenue par une femme courageuse, Mathilde, se rassemblent les villageois qui sont titillés par des messages qui leur sont délivrés... secrètement par Internet,
oui,
et qui leur dit que finalement ils sont amenés à disparaître. Que
non, au contraire, ce sont les champions du déclin. Vous avez été les meilleurs dans le déclin, on va parler de vous. Enfin, c'est tout de même un petit peu second degré, là. Et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils reçoivent des messages sur Internet. Et eux seulement dans le village, on ne les revient pas. Et eux, les quelques habitants restant dans le hameau, et qui se retrouvent dans cette auberge qui est devenue... le rôle d'auberge ne compte plus beaucoup. C'est devenu le lieu où ils se retrouvent autour de Mathilde, la patronne de l'auberge. Mais Mathilde, elle est descendante de l'agriculteur qui un beau jour s'est aperçu que, mais au début du XXe siècle, s'est aperçu que sur la route là, qui était devant chez lui, qui passe devant sa ferme, qui était devenue une grande route, eh ben, y a du monde qui passait, de plus en plus de monde. Et l'idée lui est venue d'en faire une auberge et d'installer une pompe à essence. Vous vous souvenez de ces pompes à essence où il y avait un levier devant, puis on voyait l'essence qui montait dans les deux bocaux qu'il y avait là. Eh bien, une pompe comme ça, elle existe. C'est pas un hasard si, bien sûr, elle est désuète, on s'en sert plus de la pompe, mais elle est toujours là. On ne l'a pas supprimée. Parce qu'il y a cette nostalgie du temps où le flot de voitures à l'époque qui déboulait sur cette grande route qui partait vers les vacances, c'était la route des vacances, un peu la nationale 6, c'est pas elle, mais ça pourrait être elle, ça a amené à un monde fou. Et puis tout ça c'est un petit peu tari parce que les voitures sont allées plus loin et plus vite. Et puis un beau jour surtout, on décide de créer une déviation parce que cette route qui traverse le pays, le bourg un petit peu plus loin, c'est insupportable, ces camions, ces voitures dans le bourg, insupportable. On fait une déviation, mais on a une belle déviation, hein, deux fois deux voies, etc. pour que les voitures aillent plus vite, un point c'est tout. Mais plus personne, on a la tranquillité du coup, mais la tranquillité est un petit peu morbide. Hein. Et dans le hameau, c'est la mort du hameau parce que l'auberge n'a plus de rôle. Et c'est fini, elle va disparaître.
Alors cette auberge, elle a été ferme et auberge, hein, elle avait deux activités.
Comme c'est arrivé souvent, ça.
Et Mathilde, la fille de ce paysan aubergiste, essaie de tenir encore...
De tenir le coup, vaille que vaille. Elle n'a plus d'auberge que le nom, c'est un café.
Il faut dire que ce hameau, c'est 12 maisons agglutinées. 12,
oui, le petit hameau de rien du tout. Le hasard fait qu'une grande route est passée en bas de ce hameau, c'est tout. Mais ce n'est jamais qu'un tout petit hameau.
Alors défilent bien sûr les habitués de cette auberge qui viennent pour discuter. Hein. Mmh. Effectivement, on se retrouve, c'est le lieu de...
Sinon,
de
c'est l'ennui le plus sombre, le plus noir.
Il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus d'école.
Il n'y a jamais eu d'école dans le hameau d'ailleurs. Mais il y avait une vie, il y avait des fermes, etc. Et ça vivait. Tout ça s'est éteint peu à peu. Et il n'y a plus que des gens qui sont soit des retraités, soit une ferme qui a fermé et dont la patronne s'échine à garder des bêtes parce qu'elle veut garder des bêtes, il n'y a rien à faire de garder des bêtes. Et puis des gens dont on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés là, par héritage, ils ont hérité de la maison. Ils sont venus finir leur existence là. C'est pas gai tout ça, c'est pas très positif.
En tout cas, c'est l'isolement. Oui. La gare est désaffectée, finie l'époque du taco.
La gare aussi, parce que le long de la grande route, il y a eu à une époque le taco. Tout le monde a connu les tacos. Engins horriblement dangereux qui traversaient les routes sans prévenir. Mais enfin bon, il y avait des tacos qui étaient très importants. Le taco, bien sûr, il a disparu depuis belle lurette. Il se trouve que la gare est restée là. Et à côté de la gare, une locomotive qui qui est resté. Je connais un cas similaire où une locomotive est restée là. On a coupé les rails devant, derrière. La locomotive est restée là. Et cette locomotive, les choucas, les fameux choucas, ben, y en a un couple qui est allé s'installer dans la cheminée de la locomotive, qui est tout un symbole.
D'ailleurs, vous l'écrivez, page 65, je vais juste lire ce paragraphe. On avait bien ri quand on s'était aperçu qu'un couple de choucas avait élu domicile dans la cheminée de l'antique locomotive, dont on n'avait jamais su pourquoi elle était restée là, sur la voie de garage qui contournait le bâtiment, planté à jamais sur des moignons de rails rouillés. Voilà. Ces choucas lui redonnaient vie. Elle en semblait toute revigorée, cette vieille locomotive, plus mangée de rouille encore que la pompe à essence ou les rails sur lesquels elle était posée. Ces oiseaux, virevoltant autour d'elle en s'interpellant à grands cris rauques, la remettaient en quelque sorte au centre du débat. Ils la vengeaient de l'oubli dans lequel on la tenait depuis que le taco avait disparu. Ça, c'est
et ben voilà,
effectivement le décor que l'on voit depuis l'auberge, la gare désaffectée. Et ces choucas, un paysage vraiment morose,
oui,
déprimant.
Les choucas, ce sont des animaux, quand on les voit la première fois, évidemment, sont des corps vidés. Ils sont tout noirs, comme les corbeaux, plus petits que les corbeaux. Ils ont la tête grise, en fait. Ce sont les corneilles à tête grise. Et détail qu'on ne voit pas quand on les voit voler, ils ont les yeux bleus.
Comme
du
vous.
Moins, l'iris de l'œil très très clair, ce qui est assez surprenant, mais il faut les voir de près pour réaliser ça. Et ces oiseaux sont très drôles parce qu'ils vivent, ils ont une vie sociale extraordinaire, en groupe. Et s'ils sont s'ils m'ont servi de modèle dans mon roman, c'est qu'il en existe toute une colonie en face de chez moi sur le toit de l'école de mon village. Et je ne peux pas me lever le matin sans aller voir, admirer la vie des choucas de cette colonie. Ils sont très individualisés dans cette colonie. C'est couple, parce qu'ils vivent en couple, et cette vie sociale extraordinaire. Ça, il faut observer la vie sociale des choucas. Oh, bien sûr, leur cri n'est pas très élégant, c'est pas le chant du rossignol. Hein. Mais si vous voyez un vol de choucas qui s'abat sur votre jardin parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à manger, laissez-les faire et écoutez. Vous les entendrez discuter entre eux. Il n'y a pas d'autre terme. Ils papotent. C'est extraordinaire à entendre.
Ce qui est particulièrement touchant dans votre dernier roman, donc Thibaut des Choucas, c'est que cette communauté d'oiseaux fait partie intégrante du décor et
bien
de la
sûr.
Vie du hameau.
Mais bien sûr.
Il est hors de question qu'on touche aux choucas et d'ailleurs ça va devenir un sérieux problème.
Au début, il y a comme toujours ceux qui adorent les choucas. Je reconnais que je suis du nombre, ça ne surprendra personne. Et il y a ceux qui ne les aiment pas, parce qu'on n'aime pas les corbeaux. Et puis, on ne fait pas tellement la différence entre les freux, les gros corbeaux, bon, qui ne sont pas des gens antipathiques non plus, mais enfin, qui sont un petit peu oiseaux de mauvaise augure, quoi. Et puis, les choucas, qui sont de la même famille, mais très différents. Mais le jour où ils deviennent le symbole d'une cause à défendre, alors là, plus question de toucher à une plume du moindre chouca, bien sûr.
Et d'ailleurs, c'est bien dit, hein, toucher aux choucas, c'était s'en prendre à eux.
Ben voilà, un lien s'établit. Ça, ce lien entre une société rurale et son environnement, puisque les choucas, ils font partie de l'environnement, là, il est évident.
Didier Cornaille est notre invité ce soir dans Wagon Livre. Je rappelle que ce week-end, c'est la 21e fête du livre d'Autun. Didier Cornaille, alors d'abord, il faut rappeler que vous en êtes un des créateurs avec Rémi Rebeyrotte.
Oui, qui un jour m'a dit « je voudrais créer un événement culturel pour les Autunois, bien sûr, et les gens de la région, mais aussi pour faire connaître Autun, pour qu'ailleurs on sache où se trouve Autun. » Et je lui ai répondu « mais attends Rémi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une fête du livre. » Et c'est parti de là. C'était ça en 96 ou 97.
Et donc ce week-end, c'est la 21e fête du livre d'Autun. C'est à la salle de l'Hexagone que vous connaissez bien, et dans une ville que vous connaissez que trop bien, Didier Cornaille.
Très bien, puisque j'habite à 20 km de là. Et je dois dire honnêtement que j'ai un énorme plaisir à voir que cette fête, moi je ne m'en occupe plus depuis longtemps, mais perdure et aurait même tendance à s'affirmer. En Bourgogne, disons qu'il y en a deux, il y a Livre en Vigne, sur un tout autre plan, dans un tout autre décor magnifique. Et la fête d'Autun, pas très loin géographiquement l'une de l'autre, extrêmement complémentaires, l'une au printemps, l'autre à l'automne. Et cet équilibre, ben, il faut veiller à le conserver, à le garder. Et Autun aurait tendance à se développer, ça devient la référence des fêtes du livre en Bourgogne.
Fête du livre d'Autun, donc ce week-end, organisé par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois. Et donc les informations, les auteurs invités sont à découvrir sur le site internet www.lireenpaysautunois.fr. On marque une première petite pause musicale et puis nous retrouvons notre invité Didier Cornaille juste après.
Dans ma vie, ma prise de coup, tu m'as donné l'envie de croire à l'amour. J'ai oublié ce qu'était l'ennui avec tes mots de velours, tes promesses qui m'obsèdent nuit tes jours. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il batte avec le temps. Tu n'es pas là, mon sourire s'assombrit. Même si souvent tu me mens, amour, amant et ennemi, toujours contre toi, je m'oublie. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il batte avec le temps. Cache derrière tes airs indifférents. Sous tes baisers et tes caresses, je sais qu'il y a tes sentiments. Tu m'aimes chaque jour plus profondément. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il batte avec le temps.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le romancier Dano est avec nous ce soir dans Wagon Livre sur Radion. Le romancier Dano, c'est... Jolie périphrase.
Oui, c'est un petit peu limitatif. Il se trouve que j'habite à Anneau, c'est tout. Ouais. Difficile d'identifier, sauf cas exceptionnel, en tout cas ce n'est pas mon cas, je ne crois pas, d'identifier quelqu'un qui écrit au seul lieu qu'il habite.
Votre dernier roman, oui, disponible aux éditions des Presses de la Cité, a pour titre Thibaut Deschouka. Une fois de plus, vous portez un regard sur la ruralité, sur une certaine ruralité fragile, oui, et qui est sur le point, alors j'allais dire, de disparaître ou qui est menacée.
Non, elle ne va pas disparaître, ou du moins, elle disparaît tous les jours. C'est-à-dire que ça change en permanence. Et que c'est vrai que le monde rural, en général, depuis trois quarts de siècle, connaît un déclin épouvantable. Je pense que s'il était nécessaire de rétablir les choses, c'est-à-dire qu'il y avait trop de monde à la campagne, ne serait-ce que par l'évolution des techniques, trop de monde à la campagne, pas assez dans les usines, donc il y avait un rééquilibrage inévitable. Mais on l'a laissé, comme souvent en France, on a mis une machine en route qu'on n'a pas su régler et qui s'est emballée un petit peu. On est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Plus de 80 à 90% de la population française sur 20% du territoire, les 80% restants étant quasiment vides, c'est aberrant, c'est hors de propos, quoi. D'autant plus que ces 80% du territoire restant sont disponibles pour un développement correspondant tout à fait à notre époque. Avant, pour créer quoi que ce soit, il fallait aller dans la... Je schématise là. Hein. Pour créer, il fallait aller dans la zone industrielle. Hein. Avoir un environnement très proche, matériellement très proche. C'est plus vrai maintenant. Par les nouvelles technologies, on peut très bien travailler depuis chez soi quand on habite à Hanau ou ailleurs, au fin fond du Morvan. Travailler avec des boîtes qui sont à Paris ou ailleurs. Énormément de Hollandais qui sont venus s'installer dans le Morvan depuis 15 ou 20 ans, peut-être plus, sont des gens qui ont continué à travailler avec leurs boîtes en Hollande. On peut très bien le faire. Et ça se fait de plus en plus. Ça s'appelle... Le
télétravail.
Le télétravail. Ce n'est qu'un terme générique qui recouvre beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Mais c'est une réalité. Et une réalité qui a tendance à se développer. Et ça, c'est très très important. Parce qu'au fond, ça détruit le mur. Dans la mesure où il n'a jamais existé, moi personnellement, je n'ai jamais trop cru. Mais on a cru, on a maintenu un certain temps qu'il s'était créé un mur entre le monde rural et le monde urbain. Et on a opposé le monde urbain au monde rural. Parce qu'on avait besoin d'aller pomper ce monde rural tant et plus. Ça, c'est fini, ça, on n'en parle plus. Et tout ce qui pourra effacer ce mur, rendre une société française dans son ensemble plus homogène et plus proche les uns des autres, ce serait une bonne chose. Et encore une fois, là où les villes connaissent des encombrements, des embouteillages au niveau des rues, c'est vrai, mais aussi des moyens techniques épouvantables qui créent des difficultés à l'entreprise et à la création d'entreprises, le monde rural, lui, a des tas de possibilités qu'il offre aux gens qui veulent créer. Et ça se saura de plus en plus, j'en suis convaincu.
Didier Cornaille, comment expliquez-vous cet enthousiasme des hommes politiques autour du monde agricole? On l'a vu notamment au salon de l'agriculture. Oui. Le président Macron y a passé 12 heures, là. C'est un record battu.
Oui, ça a toujours été. Moi, mon souvenir à moi au salon de l'agriculture que j'ai fait X fois à l'époque où j'étais au Figaro Agricole, c'est De Gaulle. Ce pointant, évidemment, je parle d'une autre époque. Eh bien, c'était en 68, en mars 68, avant qu'il ne se passe d'autres choses. Il était accompagné de son ministre de l'Agriculture qui s'appelait Edgar Faure. Et il est venu me serrer la main. Ça, je m'en souviens tout de même. De Gaulle vous serre la main, je m'en souviens. C'est le privilège de l'âge. Hein. Et déjà à l'époque, il fallait se montrer au salon de l'agriculture. L'engouement, il a toujours existé, du moins dans les paroles. Mais dans les faits, je pense que c'est moi l'engouement des politiques ou leur opposition, peu importe. C'est la réalité des moyens technologiques dont l'homme dispose maintenant, au sens large du terme, et ses possibilités économiques qui feront qu'un rééquilibrage se fera ou ne se fera pas. Moi, je crois qu'il se fera. Je suis assez optimiste en la matière.
Alors, on a dit que le président Emmanuel Macron était un président à la fois des riches et des villes.
Je le crois.
Vous le pensez aussi?
Je le crois. Je ne le crois pas très, très rural, mais je ne lui demande pas non plus. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais vécu le monde rural. Il faut le vivre, le monde rural, pour le connaître. Je ne suis surtout pas de cette catégorie des vieux gars qui disent « Ouais, il n'y a que moi qui ai raison ». Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais comment voulez-vous qu'avec la formation qu'il a, qui est tout à fait respectable, mais qui est excellente, avec cette intelligence indiscutable qu'il faut lui reconnaître, mais il n'a jamais vécu ce monde rural. Et lui, il voit les grands... comment je vais dire, les grandes données économiques et macroéconomiques, il ne peut pas descendre à ce niveau-là. Et le discours, bien sûr, il faut rassurer les ruraux et leur dire, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, etc. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Il a très peu de possibilités, aussi puissant qu'il soit, pour ramener les choses à l'ordre. Et citez-moi un président de la République ou même un Premier ministre qui a été assez puissant pour changer quelque chose de fondamental dans le monde rural. Vous ne m'en trouverez pas de quelque bord que ce soit.
25% de la population française actuellement donc vit dans la campagne, dans les campagnes. C'est plus le cas?
Oh, il n'y a plus 25%.
Ça, c'est des chiffres récents que j'avais lus dans un article récent du Figaro.
Oui. Moi, j'en serais plutôt autour de 20. Enfin bon, c'est une question.
Et en 1954, les agriculteurs représentaient encore le quart de la population active. En 1954, aujourd'hui, on estime que les agriculteurs, c'est 3%.
Oui, c'est
de la
ça, population. Oui. Alors là, oui. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ça. Voilà.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et il en est question souvent dans ces fermes qui ne sont pas reprises dans vos romans, c'est que ces fermes, elles sont trop petites. Aujourd'hui, on veut des méga unités de production.
Je vais me faire l'avocat du diable. L'unité produite, le litre de lait ou le kilo de viande, hein, dans une petite ferme, revient beaucoup plus cher que l'unité produite dans une ferme gigantesque du bassin parisien ou d'ailleurs. D'abord, il aura une autre qualité tout de même. Hein? Alors ça, c'est un autre problème encore là. Hein? Puis il y a un problème humain derrière. Parce que c'est vrai, ça coûte moins cher. Mais pendant ce temps-là, le fils d'agriculteur, c'est plus l'agriculteur, lui on l'a laissé aller jusqu'à sa retraite. Mais le fils d'agriculteur qui est au chômage, ben, il coûte cher aussi. Donc ce n'est pas simplement le prix constaté du produit à un endroit ou à un autre, c'est toutes ces implications qu'il faut prendre en compte. Et puis derrière, je venais de le dire et je reviens sur ce sujet-là, il y a la qualité qui rentre en ligne de compte.
Hein? Dans Les Trois Chats de Chamasson, il y a un couple, c'est les Caudrons, c'est un vieux couple de paysans. Ils ont trois vaches, je crois, et
ils ont gardé trois vaches,
une dizaine de poules.
Ouais,
ils disent même c'est leur resto du cœur à eux, d'ailleurs.
Oui, je le dis quelque part.
Il y en a encore, ces paysans qui ont trois vaches et
ah bah oui, parce que c'est légal, si vous voulez ça. Quand ils prennent leur retraite, une retraite qui n'est pas épaisse, croyez-moi, hein, pour ces petits paysans-là, on leur laisse le droit de garder deux, trois bêtes pour les occuper. C'est très, je dis 2-3 bêtes, c'est 3 bêtes ou 4 bêtes selon les cas, hein, c'est très réglementé ça. Hein. Ils ont le droit de garder des bêtes ou de garder une petite activité agricole, d'abord parce que sinon ils vont s'ennuyer dans leur ferme, et puis comme ça on leur dit, ben, ça va vous compléter vos revenus. C'est un petit peu rêvé ça, mais enfin bon. Et ils gardent comme ça, le brave homme qui me fournit du foin pour mon cheval régulièrement, il est à la retraite, il a mon âge, donc il est à la retraite depuis belle lurette. Hein. Et ben il continue à faire son peu de foin pour ses bêtes, puis il en fait un petit peu pour moi.
Et il en est heureux?
Oui, je crois.
Il subit l'activité ou il...
Comment?
Il subit l'activité.
Ah non, il n'a subi pas
C'est pas
tout.
Par obligation.
Non.
Il le fait par bonheur.
Ah oui, bien sûr, il fait par plaisir. Il continue à aller au marché très régulièrement, marché de Moulin-Gilbert. Et bien sûr, il ne vend plus que très rarement des bêtes sur le marché. Mais il y va parce que c'est sa vie, parce que c'est son plaisir, parce que c'est son bonheur.
Didier Cornaille. Au mois de décembre, j'ai reçu devant ce micro un romancier de Vézelay qui s'appelle Jean-Pierre Canet. Et Jean-Pierre Canet fait le même constat que vous, ces campagnes qui se désertifient, qui deviennent des déserts. Et Jean-Pierre Canet disait à ce micro, je voudrais que l'on vote, que les politiques décident d'un grand plan Marshall pour les campagnes françaises.
Beau rêve.
Beau rêve.
Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est pas réaliste. Il n'y en aura pas. Parce que, attendez, il faut tout de même être réaliste après tout. On vit pas si mal que ça à la campagne. On râle, c'est normal. Mais si on compare avec d'autres dont on entend parler, et je ne citerai personne, tous les matins et à longueur de journée dans les bulletins d'information, on n'est pas si malheureux que ça. Donc le plan Marshall, il y en a qui en ont besoin, c'est vrai. Est-ce qu'on en a besoin, nous? Non, on aurait simplement laissé aux campagnes le droit d'exister, d'être des lieux de création, des lieux de production, des lieux d'existence. C'est ça qu'on leur a nié pendant longtemps. Eh bien, il faut revenir de ça. Mais si c'est ça un plan Marshall, bon, alors marchons pour un plan Marshall, mais je ne crois pas que ce soit ça.
On a entendu des arguments selon lesquels on avait donné beaucoup d'argent, par exemple, pour les quartiers, pour les villes, pour les quartiers, au détriment de la vie culturelle, économique des campagnes.
Bon, on a c'est vrai qu'on a regardé simplement les projets de Grand Paris actuellement. Moi, je ne vous cache pas, je vous le dis honnêtement, ça me fait hurler. Parce que le tout pour la ville en permanence, c'est trop. Ça ne va pas. Alors que c'est vrai que pendant ce temps-là, considérer un village comme le mien, Hanau, que beaucoup de gens connaissent, comme une capacité de production, et donc lui donner les moyens de vivre au niveau économique, mais au niveau culturel, vous l'évoquiez tout à l'heure, ça rentre aussi en ligne de compte, et beaucoup d'autres choses. C'est ça, c'est un rééquilibrage plus qu'un plan Marshall. Mais qui ait besoin d'un rééquilibrage, là, je suis d'accord.
Si l'on prend la communauté du hameau des Ruées, dans Thibaud-des-Chouka, ils ont l'esprit de révolte assez chevillé au corps tout de même.
Est-ce que c'est l'esprit de révolte ou c'est le mécontentement, le ras-le-bol là, du râleur de comptoir un petit peu, hein, qui n'est pas content parce que ça ne va pas comme il voudrait, et puis qu'on l'oublie au fond de son trou, ce qui n'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais il y a toujours eu, il y en aura toujours. D'ailleurs, à la fin, le roman se finit par une certaine amertume. Je n'aurais pas trop en dire, il ne faut pas parler de la fin normalement. Il ne faut pas révéler la fin. Mais il y a tout de même une certaine amertume à la fin de ces gars-là qui se sont battus pour que leur hameau ne meure pas totalement, mais qui s'aperçoivent qu'il va revivre, oui, mais sans eux, ils vont être dépassés parce qu'ils ne sont plus dans le coup. Et ils seront toujours mécontents.
En tout cas,
c'est pas gentil ce que je viens de dire, mais c'est un constat.
En tout cas, en exergue aux trois chats de Chamasson, il y a une citation de Jean Jaurès. Vous l'avez présente à l'esprit ?
Ah, oui,
je vous laisse la dire.
Présente à l'esprit, non, je ne saurais pas vous la réciter.
Ce qu'il y a de plus grand au monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit.
Voilà.
Jean Jaurès.
Oui.
Eh ben surprenant, oui. Surprenant. Jean Jaurès en exergue un roman de Didier Cournail.
Pourquoi ? Oh ben non, alors pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et la liberté de l'esprit, mais ces bons vieux là, qui sont bons vieux, sont pas tous si vieux que ça, mais ces braves gars qui sont en marge de la société, ces gens qui sont un petit peu des laissés pour compte de la société. Ils ont cette liberté de l'esprit, prendre des choucas comme cause à défendre. Tout le monde ne le fait pas, ça. Hein. Ça dépasse les grandes causes de sous les pavés, la plage, des choses comme ça. C'est autre chose. Ils ont donc une forme de liberté d'esprit. Et ça, il faut le leur reconnaître.
Didier Cournail, il est interdit d'interdire, mais va s'offrir une petite pause musicale. Et
tout
puis, on vous retrouve dans une poignée de minutes. Je rappelle que vous êtes devant les micros de Wagon Livre ce soir sur Radion. Pour présenter Thibaud-des-Chouka, votre dernier roman, comment une communauté humaine décide de dire « On ne touche pas à nos choukas, on ne touche pas à la gare désaffectée de notre hameau, on y revient dans une poignée de minutes ». C'est Didier Cournail qui nous accompagne ce soir sur Radio.
Des fantômes d'illusions
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Didier Cornaille, l'année dernière, les trois chats de Chamasson ou... On avait quelques personnages, quelques écologistes qui apparaissaient dans ce roman. Hein. Oui, il y avait un écologiste, enfin au sein d'une association, qui venait dénoncer les... Et puis une qui, notamment avec son camion, la nomade, apparemment, elle allait du côté de Nantes...
Comment ça s'appelle ?
À Notre-Dame. Notre-Dame.
Voilà, mais c'est ça, Notre-Dame-des-Landes, bien sûr.
Oui, Notre-Dame-des-Landes. Et effectivement... Dans Thibaut Deschoucas, il y a aussi quelques écologistes qui interviennent. Alors maintenant, l'ingrédient humain, écologiste, est indispensable dans les
humain,
romans
oui,
régionaux.
Écologiste, non. Mais l'écologie prend tout de même une présence. Écoutez, j'ai été journaliste agricole pendant assez longtemps. Le département de l'Yonne a été en pointe, d'ailleurs, à l'époque. J'étais encore à Paris quand on disait, mais le seul... salarié de chambre d'agriculture, technicien de chambre d'agriculture, tourné vers l'écologie, c'est à Auxerre qu'on le trouve. Et c'était vrai. Mais je remonte à ça aux années 70. Je suis venu assez souvent dans Lyon, après, quand j'étais journaliste régional, autour de problèmes écologiques. Production de bio, etc. Et c'est là qu'il y a eu un mouvement qui s'est créé et qui s'est développé depuis Lyon. Il ne faut pas l'oublier, ça. L'écologie existe, elle est rentrée maintenant dans les mœurs, dans nos mœurs, dans notre quotidien. Nous mangeons bio, nous avons le souci de ne pas nous intoxiquer avec tout et n'importe quoi. Et le souci aussi, ce souci écologique, retrouve le souci d'une campagne qui vive, et qui vive décemment. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il est rentré dans le débat, on en parle maintenant.
Alors est-ce que l'écologie n'est pas aussi la nouvelle religion, Didier Cornaille ?
Pour certains, elle peut l'être. Je ne partage pas ça. Mon sentiment religieux étant assez mince, je ne partage pas ça. Mais je reconnais que pour certains, elle peut l'être. Je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là. L'écologie est un élément important du débat, comme l'a été après-guerre, par exemple. Je prends un exemple opposé volontairement. La nécessité absolue, l'obligation de produire de plus en plus. À tout prix.
Qu'on peut aujourd'hui, j'allais dire, respecter les attentes écologiques des consommateurs, des producteurs et continuer à nourrir la terre entière ? Ça, c'est le vrai problème, ça.
Bien sûr.
Non, c'est
bien sûr. Seulement, il faut faire le choix de travailler comme ça. C'est-à-dire que faut donner leur chance aux écolos, producteurs écologiques. À grande échelle, pas seulement dans des parenthèses et des cas spécifiques. Il faut généraliser. Tant que, par exemple, on ne pourra pas produire du miel correctement en France à cause de ces produits toxiques qu'on répand sur, dont le nom est trop compliqué, je ne vous le donnerai pas au micro, il y a des choix à faire. Tant qu'on utilisera du glyphosate, en sachant ce qu'il a de dangereux, et qu'on se battra pour savoir qui il faut écouter, des mouvements écolos ou des lobbies qui agissent à Bruxelles ou ailleurs, ça n'ira pas, tant qu'on n'aura pas pris de décision. Quand on aura pris des décisions, ça ira peut-être mieux.
Alors,
les décisions ne sont pas prises et de loin.
Dans Thibaut Deschoucas, Il s'agit effectivement de protéger les choucas. Ils ne doivent pas disparaître du paysage de cette communauté de hameaux des ruées. Et puis, il y a un garçon, il faut quand même pas trop en dire. Il y a Thibaut dans le titre du roman. C'est Thibaut, c'est le fils de Mathilde qui tient
l'auberge. Thibaut, je crois qu'on peut le décrire très facilement.
C'est un geek.
C'est un geek.
Un geek.
Oui, ça, je connais pas trop ces choses-là.
Le geek, c'est le terme qui désigne l'adolescent ou l'individu qui est obsédé par les nouvelles technologies.
Il n'est pas obsédé, lui, il les utilise.
Oui.
Tant et plus, comme le font la plupart des jeunes, d'ailleurs. Lui, surtout, ce gamin, c'est l'ado qui vit mal son adolescence. Et Dieu sait si on en connaît, il y en a toujours un peu partout. Parce que vivre tout seul, entouré par sa mère et sa sœur, très gentille la sœur, elle a un rôle la sœur d'ailleurs, sa sœur aînée. Au milieu de tous ces vieux du pays, rentre de l'école, il n'a que ça sous les yeux. Pour un ado, c'est pas grand-chose. Il se réfugie sur son ordinateur. Et on va tout de même pas dire ce qu'il y fait sur son ordinateur, surtout pas. Mais il se réfugie sur son ordinateur, comme on en voit beaucoup, ou sur son écran en tous les cas. Il a cette addiction des écrans, que je trouve quelquefois grave d'ailleurs, pour les jeunes. C'est terrible ça. Mais lui se réfugie là, on le laisse faire, on le surveille un peu du coin de l'œil dans la salle de l'auberge. Qu'est-ce qu'il fait sur son ordinateur? On ne sait pas trop. Et puis on le laisse faire, un peu inquiet. Et lui, il manigance des coups, mais enfin j'en dirai pas plus. Mais il a un autre don et personne ne s'en aperçoit. Personne ne le voit, sauf sa sœur. Il dessine divinement bien. Et il dessine qui et quoi ? Ben les choucas, bien sûr. Et le jour où ça se révèle, le jour où on a besoin de défendre les choucas, et le jour où ça se révèle, il le révèle surtout auprès de son père, qui va voir, dont il a pitié quelque part. Je ne dirais pas la situation du père, mais enfin, il en a un peu pitié. Tout ça n'est pas spécialement folichon. Et il va trouver son père et il avoue ça. Enfin, il dit ça à son père, qui est au courant par la sœur, qui a cafeté la sœur. Parce qu'elle, elle admire le talent de son frère. Elle voudrait qu'il en parle, mais lui, il ne veut pas en parler. Il ne veut pas. Et quand il en parle enfin à son père, ben c'est le début d'une sorte de déblocage. Ce gamin totalement bloqué, complètement autiste. Cet adolescent autiste, comme tous les adolescents, au bout d'un moment, ben, ça se débloque tout de même. Heureusement, quelque part, il va se débloquer. Et il va devenir un garçon très intéressant, qui ne va pas prendre le leadership du mouvement, mais qui va en devenir tout de même des rouages essentiels.
Grâce aussi au blog, on se fait connaître aussi.
Voilà, nouvelles technologies, bon. Ça, il est en plein dedans, lui, il est de son âge. Et si elles sont bien faites, pourquoi pas? Et lui, il les utilise plutôt bien à partir du moment où il rentre dans le circuit normal.
Et puis la pauvre vieille Angèle, elle ne sait pas ce qu'est un blog, mais c'est pas grave. Elle ne peut pas s'occuper de la chapelle, de la tombe,
voilà,
de son mari,
c'est ça,
et savoir
voilà,
ce qu'est un blog.
Elle ne peut pas s'occuper de tout. Mais est-ce que vous croyez qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un blog? Elle a aussi un ordinateur. Ils se révèlent tous au début. Non, on n'a pas d'ordinateur. Mais ils ont tous un ordinateur. Et tous les matins, ils vont voir s'ils ont ces fameux mails qui les mettent en cause.
En tout cas, dans Thibaut Deschoucas, Didier Cornaille, là, le projet du hameau est cher à votre cœur parce que Anneau, par exemple, est très connu, entre autres, pour son festival de la Vielle.
Notamment, oui.
Notamment, justement, je le dis avec prudence.
Du livre aussi.
La fête du livre de Anneau. Mais c'est un événement plus modeste, peut-être, à côté de la fête de la Vielle.
Oui, tout à fait, mais c'est pas au nombre de visiteurs qu'on calcule l'importance d'un événement.
Justement. Pour vous, les manifestations culturelles en milieu rural, c'est très important.
Essentiel.
Elles ont toute leur place et elles
tout
peuvent
à fait,
réussir.
Tout à fait, bien sûr. Et il y en a. Une fête du livre à Anneau ne va pas drainer le monde qu'elle va drainer à Autun, ni même le monde que va drainer une fête de la Vielle, juste comme ça. C'est plus intimiste, c'est moins de foule, si vous voulez. Mais son existence est quelque chose d'essentiel. Et on a beaucoup, de plus en plus, d'événements culturels comme ça. Il y a par exemple une exposition des... Je parle d'Anneau parce que j'y habite, mais dans les autres villages, c'est la même chose. Une exposition des artistes d'Anneau qui, tous les ans, remporte un très grand succès.
Je reviens aux trois chats de Chamasson. Dans les trois chats de Chamasson, on a effectivement un... Next 68 ans, oui, il avait un peu moins de 20 ans, je crois, en 68, Sylvestre Tardy, donc Il est retraité, on ne peut pas dire qu'il a une retraite très, très épaisse.
Il a vécu une vie de clochard. Hein, il a été SDF, littéralement. Hein.
Fils d'instituteur, et il vient reprendre la petite maison des parents qui a été abandonnée, qui ne lui appartient pas
à lui, tout
qui
seul.
Appartient à lui seul. Alors, il y a aussi la sœur qui mettre son grain de sel. Mais surtout, il y a un affreux personnage qui a colonisé l'environnement, c'est Eugène Ravalo. Et c'est la figure de l'affreux campagnard profiteur qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les lois, et surtout pas les gens, et surtout pas les chemins forestiers,
qui
on laisse tout ça, il ne respecte rien, quoi.
On m'a reproché d'avoir été trop caricatural autour de ce personnage d'Eugène Ravalo. Je l'assume tout de même, parce qu'on sait bien que dans toutes les campagnes, vous avez, comme il y a eu, cette débandade des petites fermes qui ont fermé en nombre énorme d'année en année, ont émergé, selon les villages, 1, 2, 3, 4 maximum, gros, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme, mais enfin bon, gros, entre guillemets, agriculteurs qui raflent tout. Et qui rafle tellement tout qu'il finit par se croire en droit de tout rafler. Et ça leur donne un état d'esprit tout à fait particulier.
Oui, ils se sentent maître des lieux, c'est le seigneur du pays. Quoi.
Sans moi, rien ne peut exister. Du faux. Et ce Eugène Ravalo, c'est tout à fait ça. Alors celui-là, on me l'a reproché. Qu'est-ce qu'on me l'a reproché ? Mais ça m'amuse beaucoup parce qu'il existe. On sait très bien qu'il existe. Et quelque part, si on me le reproche, c'est qu'on dit, mais oui, bien sûr, ça existe, mais pas tant que ça. Mais si, ça existe tant que ça. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de campagnes, maintenant, en sont réduites à ces 3 ou 4 personnages, le reste n'étant plus que des retraités ou des gens hors du coup, hors du commerce, hors de l'artisanat.
Alors, il y a les retraités du pays, puis il y a ce qu'on appelle aussi un peu ces néo-ruraux, ces retraités qui viennent s'installer à la campagne. Et qui parfois ne comprennent pas très bien la vie à la campagne ou critiquent le fait qu'on entende le clocher, que ça les empêche de dormir ou ça les réveille un peu trop tôt. Il y a de la bouse de vache sur les routes. Ce n'est pas dans vos livres. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Didier Cornaille, de ces citadins qui viennent s'installer à la campagne et qui empoisonnent la vie des gens?
Non, ils n'empoisonnent pas.
Vous êtes d'une grande indulgence.
On monte en épingle des cas. Je connais le coup des cloches. Qui gêne le sommeil des braves gens. Le dernier cas que je connaisse, c'est en Bresse, où celui qui a mené la guerre contre les cloches, c'était celui qui les avait instaurées, puisque c'était l'ancien curé. Donc, relativisons les choses. Non, mais des oppositions entre les personnalités, les personnages, il y en a partout. Même en ville, vous avez des quartiers où on dit qu'il y a trop de musulmans.
Oui.
C'est pas un cas similaire ? Et cela, il ne s'adapte pas. Et même un président de la République qui, dans un discours célèbre, y a fait allusion d'une façon assez grossière. Mais chez nous, c'est les retraités qui reviennent et qui, paraît-il, n'y comprennent rien. C'est vrai qu'ils y comprennent, qu'il faut leur expliquer en tous les cas. Mais c'est la vie. Enfin, on ne va pas être une seule catégorie de gens qui comprennent tout et qui sont dans le rail, etc. Surtout pas. Il faut cette mixité. Parce que les uns apportent nécessairement aux autres. Parce que ces gens qui viennent de la ville, qui ne connaissent pas le monde rural, ils participent beaucoup aux associations. Parce que sinon, ils sont seuls chez eux. Hein. Pas d'oublier ça. Et ils apportent énormément au monde associatif. C'est un de leur rôle. Alors, c'est vrai. Mais que quelque part, quand ils s'opposent au Eugène Ravalo, c'est-à-dire le gros agriculteur qui répand des produits chimiques sur ses cultures sans faire attention que le vent emporte ses produits vers la maison du retraité, que le retraité y râle. Moi, je suis d'accord avec lui. Bon, pour les cloches, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais dans ce cas-là, je suis d'accord avec lui. Vous voyez, il faut sous-peser les choses, hein, il faut relativiser beaucoup.
Didier Cornat, j'imagine que vous vivez paisiblement à Hanau, et ce, depuis de nombreuses années. Vous y êtes connu, vous êtes néanmoins un étranger du pays, mais ça, apprécié.
C'est moi qui entretiens l'image. Vous voyez,
est-ce que vous envisageriez d'aller vous installer, par exemple, dans un appartement, même un bel appartement à Dijon
pas.
C'est inconcevable.
J'ai connu ça, j'ai habité à Garges-lès-Gonesse. Je ne sais pas si vous connaissez Garges-lès-Gonesse, charmant port de mer, mais la mer sortir loin. J'en garde un bon souvenir, hein, mais non, c'est plus. Si j'ai quitté Garges, c'est pas pour rien et je ne vais pas y retourner à 75 ans.
Et à Hanau, alors, tous les jours, il y a un rythme de vie très régulier, on s'occupe de son cheval. Que voilà, fait Didier Cornaille chaque jour à Anneau?
Tout matin et soir, il s'occupe de son cheval, c'est vrai. Mais j'écris aussi, je bricole, je suis comme tout retraité dans sa maison, retraité ayant une occupation et se déplaçant quelquefois jusqu'à Avallon pour des choses comme celle-là, quoi.
Alors je rappelle aussi, ça je vous ai taquiné, que vous étiez, c'est le cantonnier, je crois, d'Anneau qui vous a dit, toi tu es un étranger, mais tu es un étranger du pays.
Oui, ça, c'est hein. Il est à la retraite lui aussi maintenant, tous ces gens. Mais je en ai toujours grand copain parce que ça m'avait beaucoup amusé quand il m'a dit ça. Mais je ne vois pas du tout ce qu'il y a de péjoratif là-dedans. Hein. C'est vrai, je ne suis pas né dans ce pays, j'y suis étranger, j'ai dû apprendre. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que quand il m'a dit ça, j'étais là depuis quelques mois ou quelques années au maximum. Maintenant, pour beaucoup de gens, quand on veut se souvenir de quelque chose, parler du passé, c'est vers moi qu'on se tourne. Vous voyez, donc les choses sont relatives. Hein, et puis avec le temps, ça passe. Mais je suis toujours natif. Je reconnais, et ça c'est une chose à laquelle je tiens, c'est qu'il m'arrive de retourner dans le Nord beaucoup moins qu'avant, mais il m'arrive de retourner dans le Nord, dont je suis originaire, dans la région de Cambrai, le pays des bêtises, ce qui n'est peut-être pas nécessairement un hasard. Eh bien, quand je remonte là-haut, je retrouve à la fois le patois, que je serais incapable de vous parler là, spontanément, mais je retrouve le patois et je retrouve l'accent. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que j'ai toujours mon identité là-haut, c'est vrai, je l'ai toujours, ce qui n'empêche que je me trouve très bien en Morvan. Ce qui relativise beaucoup la notion de racine. Vous savez, on a de ses racines quelque part. Ça, j'y crois beaucoup moins. J'y crois beaucoup moins. Mais on peut être de quelque part tout en se trouvant bien ailleurs.
Didier Cornaille, une petite question lexicale avant de nous quitter. C'est dans Thibaut Deschoucas. À la page 26, il est question de la malandre. C'est quoi la malandre ?
La maladie.
C'est la maladie.
La maladie, mais c'est un vieux terme, un petit peu désuet.
Didier Cornaille, merci d'avoir été avec nous. Le temps passe très vite. Oui. Je rappelle donc Thibaut Deschoucas, votre dernier roman que l'on trouvera bien sûr sur votre stand lors de la fête du livre. Évidemment. D'Autun. C'est ce week-end à la salle de l'Hexagone, dans cette ville gallo-romaine, et pas que, puisqu'il y a aussi cette cathédrale Saint-Lazare, Gisle Bertus, Okfekit, etc.
Romane. J'ai d'ailleurs écrit un ouvrage sur Autun qui s'appelle Autun, toute une histoire, où j'ai pris énormément de plaisir à retracer l'histoire très très riche d'Autun.
Et vous avez croisé le dernier chanoine d'Autun,
l'abbé Griveaux. Plus que croisé, c'était un ami très proche que le chanoine Griveaux, qui est un personnage merveilleux, extraordinaire, avec un caractère impossible. Mais ça, c'est pas grave, vous pouvez le dire. Nous l'aimions beaucoup. C'était quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup apporté à Autun.
Et Didier Cornaille n'a-t-il pas lui aussi un caractère impossible?
Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. J'assume simplement.
Très bien. Thibaut Deschoucas, votre dernier roman aux presses de la Cité. Je rappellerai aussi l'avant-dernier, hein, Les trois chats de Chamasson. Ils sont très jolis, ces trois petits chats, ces trois sauvageons ouais. Témoins de la reconquête de cette maison abandonnée par Sylvestre Tardy, votre personnage. Voilà. Je dois donc bien sûr encourager nos auditrices et auditeurs à se rendre à Autun ce week-end pour la 21e fête du livre.
Et il se trouve aussi en librairie. Le roman se trouve aussi en librairie.
Dans toutes les bonnes et grandes librairies aux quatre coins de Bourgogne. Il y en a dans Lyon, en Côte d'Or, en Saône-et-Loire. Et de la France, bien sûr, bien sûr. Didier Cornaille, l'émission du 11 avril prochain sur Radion risque de vous plaire, puisqu'on va parler du Front populaire dans Lyon.
Ah bon.
En 2016, l'association Adiamos 89, alors c'est l'association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, avait organisé à Auxerre un colloque sur le Front populaire dans Lyon. Depuis, les actes de ce colloque sont disponibles en librairie et nous aurons donc trois des membres d'Adiamos, trois historiens, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gant, qui viendront nous expliquer comment le Front populaire a été vécu dans Lyon. Ce sont deux émissions que nous proposons donc à partir de mercredi prochain, 11 avril et le 18 avril. Voilà, tout est dit, ou presque. Didier Cornaille, un petit mot de conclusion.
Non, simplement vous remercier pour votre bon accueil.
Merci Didier Cornal.
Et je vais aller retrouver mes choucas qui m'attendent à Hanau.
Thibaut des choucas, de Didier Cornal aux presses de la Cité. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. Rendez-vous mercredi prochain, toujours sur Radion. Au revoir.
Au revoir.